L'amphi, l'émission étudiante.
Alors, la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
Bonjour et bienvenue dans l'Amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com. Aujourd'hui, on vous présente la compagnie La Gomme, un trio circassien qui nous parle de leur premier spectacle, Triboule à tous. Bonjour Léo, Isaiah, Célian et Gabriel.
Bonjour.
Salut.
Bonjour.
Alors, puis nous écouterons l'interview de l'auteur de BD Lucas Nin, qui était présent le 27 avril à Bulle pour dédicacer sa nouvelle BD La Peur Émeraude aux éditions Les Rêveurs. Enfin, une fois n'est pas coutume, nous finirons cette émission avec la chronique étudiante de Clémentine, et non pas Ismaël ce lundi. Mais ne vous en faites pas, on retrouvera Ismaël lors de la dernière émission du mardi 30 avril. On commence sans plus attendre avec nos invités du jour.
Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est de fou et plus on s'emmerde.
Je suis avec Léo Letellier, Isaiah Van Edvelde et Célian Davy, ainsi que Gabriel Salin, de la compagnie La Gomme. Alors, ils viennent nous présenter leur compagnie et leur spectacle Triboule à tous. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la compagnie La Gomme ?
Oui, quelqu'un veut y aller ou... Non ?
Ouais, bah, vas-y, je peux t'expliquer si jamais... c'est une compagnie de cirque. Mmh. Voilà, on fait des spectacles. Enfin, là, on est sur la première création, mais c'est ça. On fait un peu toutes les disciplines mélangées, on va dire. Ça comporte de la danse, des portées acrobatiques, du théâtre aussi, on peut le dire, et de l'acrobatie au sol.
Mmh. Et alors, pourquoi ce nom, La Gomme, d'où ça vient ?
La gomme, en fait, ça vient du suédois. C'est un mot qui n'est pas traduisible en français, en fait, qui n'a pas de traduction littérale. C'est un mot qui définit le juste milieu, le ni trop ni pas assez, et toujours cette recherche de juste. Et c'est quelque chose qui est très représentatif de la façon de vivre des Suédois.
Mmh. C'est un concept qui est très intéressant, mais c'est drôle parce qu'a priori, donc vous êtes une compagnie de cirque, et avec le cirque, on serait plutôt du côté de l'excès, du spectaculaire. Ça ne va pas forcément de pair avec la juste mesure du mot La Gomme. Qu'est-ce qu'il faut entendre, en fait, quand on parle de cirque, pour vous ?
Waouh ! Oh, c'est... Ouais, grosse question. De cirque. Après, je pense que... je pense que chacun a des visions différentes de ce qu'est le cirque maintenant. Après, pour nous, La Gomme, c'est une compagnie de cirque. C'est d'abord, avant tout, des rencontres entre nous. Et du fait qu'on se soit rencontrés, on a créé cette compagnie. Après, le fait que le cirque soit et se doit d'être spectaculaire, pour ma part, je pense pas. Je pense que ça, c'était dans les années, dans les années 50.
C'est une vision un peu datée du cirque.
Ouais, c'est
quoi.
Ça. C'est une vision qui est un peu datée. Après, on représente quand même le risque et on représente quand même certaines choses du fait de nos disciplines. Mais la notion de spectaculaire, elle est. Je pense pas qu'elle soit autant présente.
Alors, la notion de spectaculaire est peut-être pas au centre, mais ce que vous proposez, c'est quand même du spectacle, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, votre art, il est multidisciplinaire. Pourquoi c'est important pour vous, d'ailleurs, de mélanger différentes disciplines ?
Ben, c'est un peu plus riche, quoi, et puis ça... C'est ça, c'est que ça fait, je sais pas, ça rajoute pas mal de choses à un spectacle, parce que s'il y a qu'une seule discipline, c'est très rapide de s'ennuyer, quoi, dessus, je pense...
Oui, puis ça permet aussi.
C'est intéressant aussi, je sais pas.
On s'exprime avec nos corps, mais on s'exprime aussi avec d'autres choses. Et donc ça amène, de par nos formations, on a aussi cette envie-là d'explorer le théâtre, d'explorer. Et je pense que le cirque est le meilleur endroit, et l'endroit où on a le plus l'opportunité de faire plein de disciplines différentes.
Et alors, justement, vos formations, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos parcours respectifs ?
Vas-y. Alors moi, en tout cas, moi j'ai pas fait une formation de cirque.
D'accord.
Moi j'ai commencé le cirque il y a 5 ans à peu près. Avant j'ai fait une formation de gym, presque toute ma vie. Et un jour j'ai joigné un cours de cirque et c'était un coup de foudre pour le cirque et j'ai changé toute ma vie pour faire ça.
C'est
l'amour.
Beau, c'est très beau.
Ouais.
Et alors vous autres, du coup, comment ça s'est passé ?
Ouais, Gab, si tu veux.
Moi, j'ai commencé le cirque vers mes 20 ans à la Rogelio Ribel, à Barcelone. Et en fait, c'est une formation qui est normalement une école préparatoire aux grandes écoles de cirque. Je n'ai fait entre guillemets que celle-là sur 2 ans. Et après, ça m'a amené à avoir. J'ai eu des contrats là-bas. Hein. Je suis resté du coup 5 ans en Espagne où j'ai travaillé pour différents collectifs ou en faisant des créations de zéro ou en faisant du remplacement, tout ça. Et je suis revenu il y a maintenant, bientôt, enfin ça va faire 3 ans que je suis revenu dans ma ville natale à Nantes. J'ai intégré un autre collectif de cirque où on s'est rencontrés tous les trois, tous les quatre. Et
d'ailleurs, Gabriel, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre rôle au sein de cette compagnie? Parce que tout à l'heure, je l'ai présenté comme un trio et finalement, il n'y a que personne. Alors ça peut être un peu perturbant pour les auditeurs et les auditrices.
Alors moi, je fais un rôle assez ambigu parce que je suis un ami.
On l'a trouvé dans la rue, il est arrivé comme ça.
Et du coup, forcément, on m'a chargé de plein de choses.
D'accord, ça
va. Cette semaine-là, on m'a demandé de l'aide pour la mise en scène et en gros, j'ai le rôle de d'œil externe, on appelle ça quoi, de quelqu'un qui va aider à la création avec un regard extérieur à ce qui se passe sur scène, tout ça, et puis du coup les assister ou techniquement et théâtralement et dans la dramaturgie, tout ça.
Et
voir tout ça.
Et alors, Léo et Célian, vous nous avez pas parlé de votre parcours à vous.
Ah oui. Moi, j'ai fait la même école que Gabriel, du coup, à Barcelone. Avant ça, je me suis entraîné à Toulouse, donc j'ai commencé en autodidacte. Donc avant de faire l'école, j'ai dû commencer vers mes, je dirais, 15-16 ans, quoi. Donc voilà, j'ai pris des cours, des stages par-ci par-là. Et puis ensuite, j'ai fait l'école. Et après ça, il y a eu une bonne année de pause, je dirais, parce que c'était juste le Covid, je crois, si je me souviens bien. Oui. Et ensuite, je suis rentré dans le collectif où j'ai rencontré Isa et Célian.
Et alors, Célian?
Et moi, j'ai commencé le cirque, je devais avoir 3-4 ans. J'ai commencé dans la région, puisque je suis natif du Mans. J'ai commencé à Saint-Georges-du-Bois, petite commune. Et j'ai commencé là-dedans, et après, je suis allé rester du cirque Marcel Marceau. Ensuite, j'ai poursuivi ma formation en formation professionnelle au Centre des Arts du Cirque Balthazar, qui est basé à Montpellier. Donc, j'ai pu bouger un peu plus. Et après, j'ai fait une école supérieure à Québec, justement, à l'école de cirque de Québec.
Et alors, du coup, Tribul à tous, c'est le premier spectacle de la compagnie La Gomme, c'est bien ça?
Ouais, c'est ça.
Exact.
Et alors, quel en est l'objectif? En tout cas, à quelle question est-ce que vous tentez de répondre par ce spectacle? Quelle est la ligne directrice?
Waouh.
La ligne directrice, la base du spectacle, je dirais qu'on s'est basé sur un poème de Didier Delahaye. Qui s'appelle Vous n'êtes pas les seuls. Pourquoi ce poème? C'est parce qu'il racontait beaucoup ce qu'on veut raconter en fait. C'est qu'il parle de quelqu'un qui se trouve là un peu par hasard, qui a envie de dire les choses, mais qui sait pas trop comment s'y prendre, qui sait pas trop comment faire. Et on trouvait que c'était un peu représentatif de notre situation.
Et alors, comment est-ce que vous l'êtes approprié ce texte?
Avec
beaucoup de semaines de réflexion,
de réflexion et on se l'a approprié par le texte aussi,
par le corps.
Ouais. On essaye de le traduire dans une langage de cirque.
D'accord.
Ouais, c'est ça.
Alors, est-ce qu'on l'entend dans le spectacle tel quel, ou alors est-ce qu'il est toujours traduit de différentes manières?
Les deux.
Il est traduit corporellement, je dirais.
Ouais.
Il est traduit en néerlandais.
Ouais.
Parce que Isa est belge.
Ouais.
Et il est dit aussi en français.
C'est inspiré. C'est pas son texte à lui qui.
D'accord. Il y a des petites modifications sur le texte. Ouais.
Son texte est dit quand
non,
même.
Son texte est dit au complet. Oui. Son texte est dit au complet. C'est juste que c'est vrai que c'est pas sa voix à lui.
D'accord.
C'est notre voix, mais c'est son poème. Et après, on s'en est inspiré aussi pour. De par le corps et aussi par le texte que nous, on s'est fait l'exercice de réécrire ou d'écrire ce qui nous inspirait avec cette ligne directrice, quoi.
Alors, on va revenir un petit peu sur des questions de forme, en fait. Quelle forme est-ce qu'il prend, ce spectacle? À quoi ça ressemble, en fait?
Alors, très basiquement, c'est un spectacle tout public, déjà de base. Un spectacle de 30 minutes, entre 30 et 40 minutes, on va dire.
D'accord.
On est sur une discipline principale qui est le main à main, les portées acrobatiques.
Alors, qu'est-ce que c'est, ça, le main à main?
En gros, on porte des gens. Voilà. D'accord. Les pyramides humaines.
Où on se fait porter.
Où on se fait porter, ouais, ouais. Oui, parce que c'est vrai que je suppose que c'est moi qui porte.
Il y en a d'autres qui voltigent. J'imagine qu'il y en a qui sont portés plus souvent qu'ils ne portent, quoi.
Ouais, malheureusement. Mais, oui. mais c'est ça, et après, voilà, ça prend une forme. Ouais, de
Est-ce que
de
vous dansez, mais vous jouez aussi d'instruments, je crois ?
Oui. Oui, on joue des instruments. Enfin, oui, du coup, moi, je joue de la guitare et. Et on utilise une tablette pour comme un launchpad quoi, c'est comme une c'est des samples qu'on envoie en fait qui font de la musique qu'on enchaîne et puis
D'accord.
C'est un peu ce qu'on fait en musique live quoi.
Mm. Ouais. Moi je dirais que on combine dans tous les spectacles, on combine des portées acrobatiques avec du théâtre, du acrodance et de la musique.
Mm. Donc on rejoint la multidisciplinarité ouais, exactement. Ouais. Tout à l'heure. Ouais.
Tout ça en essayant d'exprimer le poème.
Ouais. C'est du boulot. Il n'y avait pas une histoire aussi de scie musicale, moi j'avais cru voir. Voilà. Voilà,
oui, de... vas-y Isa, tu veux nous dire la scie musicale ?
Exactement.
Ça en est où ?
C'est une très bonne question. En gros, oui, nous avons acheté une scie musicale et ça serait moi qui était censé de le jouer. Par contre, c'est un instrument assez difficile à jouer. Du coup, je suis encore en apprentissage.
Ouais, vous ne sentez pas prête pour ce spectacle-là ?
Exactement. Du coup, on a décidé ensemble que ce n'est pas encore prêt pour le mettre sur scène. Du coup, on le gardera pour plus tard.
Bah, c'est ça, on garde aussi quand même pas mal de choses pour plus tard. On est toujours en recherche d'apprentissage et de nouvelles choses. Et les instruments font partie de ça en tout cas.
Ok, ça marche.
Ouais.
Alors, il y a une notion que vous avez évoquée, Isaïe, tout à l'heure, c'est celle d'acrodance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
On peut le montrer peut-être.
Alors, à la radio, ça ne sert pas à grand-chose.
Voilà, là, on a une petite démonstration.
Alors, je vais commenter, oui. Donc c'est une roue.
L'acrodance, c'est un mélange entre de l'acrobatie et de la danse.
D'accord.
Je vous parle déjà, le nom explique très bien. Après, c'est un. Enfin, moi, l'idée que j'en ai, c'est que ça mélange toutes les acrobaties qu'on peut trouver dans les autres sports, comme la capoeira, le breakdance,
la gym.
Mmh. En fait, et c'est avec des mouvements plus dansés qui sont moins, on va dire, techniques.
Ça marche.
Voilà.
Ok. Alors, un des thèmes qui ressort aussi beaucoup de votre spectacle, c'est le déséquilibre, le contrôle, la chute. Comment est-ce que ça prend forme dans Tribulatus ?
Je sais pas si on l'a... Enfin, ça prend forme, en fait, de par notre discipline, dans tous les cas. En fait, on en parle forcément tout le temps de ce déséquilibre-là, parce que les acrobaties, que ce soit de l'acrobatie au sol ou en aérien, on est toujours dans cette recherche-là. Après, c'est aussi dans les relations humaines, l'équilibre qu'on peut trouver en relation avec les autres. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les collègues.
Ouais. Effectivement.
En fait, il y a un lien à faire entre le déséquilibre du danseur et celui de l'individu qui vit dans une société tous les jours, en fait, c'est ça ?
Ouais.
J'essaie de reformuler ce vrai. Que je croyais comprendre.
Ouais, c'est un peu ça, en fait. Il y a une recherche d'être stable, et en fait, même quand on marche, en fait, la marche est un déséquilibre constant, et donc on n'est jamais... Tout le monde est en recherche d'équilibre. C'est juste que peut-être dans le cirque, on en a presque conscience.
Alors, dans le dossier du spectacle, on peut lire qu'un autre thème encore est abordé par Tribulatus, celui de la fin qui devient un nouveau commencement. Alors, il y a beaucoup de messages assez théoriques, finalement, et je me demandais comment est-ce que ça transparaît dans une chorégraphie ? Comment, en fait, est-ce qu'on lit un spectacle d'art vivant, comme Tribulatus ?
C'est là qu'elle travaille. C'est vrai que... Et ben, comme on disait tout à l'heure, à travers le mouvement, mais il y a aussi toute la mise en forme du spectacle qui fait qu'on comprend à la fin ce qu'on veut dire, j'espère.
Ou quoi. Ou pas. En fait, ça dépend aussi, oui. C'est l'interprétation de chacun aussi. Nous, on fait notre propre interprétation de notre spectacle.
Ouais.
On essaye de transmettre des choses. Maintenant, si le public l'interprète d'une autre façon, c'est là le spectacle vivant.
J'ai l'impression qu'on suggère.
Ouais, on suggère pas mal de choses. Ça va être un... C'est libre cours à l'interprétation de chacun. Quoi.
C'est ça.
Et comment ça fonctionne, la conception de toute une chorégraphie comme ça ? C'est-à-dire que vous avez une idée théorique et vous essayez de la traduire par un mouvement de danse, ou alors c'est plus compliqué que ça ? Ça passe par l'exploration de gestes ? Comment ça marche, en fait ?
Je dirais, par exemple, quand nous avons tous lu le poème, il y a des phrases qui nous font penser à quelques mouvements ou à oui, une chorégraphie qui nous fait penser à une phrase ou un mot. Et c'est comme ça qu'on essaie de le traduire. Pas, parfois c'est toute seule, parfois c'est des mouvements à deux, parfois à trois. Et parfois c'est pas forcément dans les mouvements du corps, mais dans les expressions du visage.
Et alors, est-ce que Tribulato c'est toujours en cours de conception ou bien est-ce que vous le jouez déjà?
Alors, on est toujours en cours de conception. On est actuellement, on est encore en résidence au Plongeoir, la Cité du Cirque,
d'accord,
au Mans, et encore pour une semaine, ouais, ça. On sort là, donc on était aussi avant du côté de Toulouse pour faire de la résidence.
Ok.
On va commencer à faire des avant-premières, du coup, donc là, ce week-end au Mans.
D'accord.
On va aussi faire des avant-premières en Belgique et à Nantes, dans nos fiefs respectifs, on va dire. Et ensuite, on a une, je sais pas si on peut appeler ça une tournée, mais on a quelques dates cet été pour essayer de roder le spectacle, voir les premières impressions du public. Et on repart en résidence et en création. On continue de faire évoluer le spectacle l'année prochaine,
ouais.
De le peaufiner avec de la musique, de la scie musicale, on l'espère.
Bien sûr, bien sûr.
Et voilà, de peaufiner et de se dire, bon, là, on l'a fini. Ça prend entre, je dirais que ça prend entre 8 et 13 semaines en temps normal, un spectacle de cirque. Là, on en est à 6, ce qui est déjà pas trop mal. Et on va voir la suite de la création.
En parlant de la suite, ouais, est-ce que d'ailleurs, vous avez déjà d'autres projets de spectacle pour après Tribulato?
Ah, ça, oui, oui.
Ouais, déjà. Ouais,
on a
ouais.
déjà eu plusieurs idées qui nous sont venues en tête, mais qui n'avaient rien à voir avec Tribulatus, qui est la création.
Vous les mettez en réserve en attendant, quoi.
Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Je ne sais pas s'il y a des choses qui ont été écrites, peut-être,
oui,
ou pas.
Il mais... y a des rêves de chacun, déjà, je pense que déjà de base. Aussi, après, on s'est retrouvé aussi sur des rêves communs. Puis
matériel,
le fait de comment
de matériel.
Ouais, de matériel, de chapiteau, voilà. On veut aussi transmettre, on a cette identité de cirque qu'on veut garder et qu'on veut avoir. Et donc le chapiteau permet aussi une visibilité, déjà une scène qui est incroyable, un lieu qui est absolument magique. Et du coup, on a cette envie-là commune. Maintenant, dans combien de temps ça se fera, quel spectacle on fera en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième, en douzième, je sais pas. Mais ouais, il y aura une suite, on espère en tout cas. On fera tout pour qu'il y ait une suite et après ça dépendra du public. Comme le spectacle vivant.
Alors, une dernière question avant qu'on donne les infos pratiques que je vous rajoute là parce que j'avais oublié de la noter. Ouais. Pourquoi ce titre en fait, Tribulatus? Qu'est-ce que ça veut dire?
Ah, Tribulatus.
Tribulatus. Vas-y, Isa.
Alors, en gros, Tribulatus, c'est un mot latin qui en français, ça serait tribulation, qui est une suite des événements qui sont plus ou moins désagréables.
D'accord.
Ouais.
Ça voilà. marche. Et ben merci beaucoup pour cette précision. Et donc enfin, dernière question, où est-ce qu'on peut consulter votre actualité?
Sur les réseaux. Insta, Facebook. On n'a pas de site web pour le moment, c'est en cours de création. Mais
La Gomme Compagnie.
Lagomme.cie. Instagram, Facebook. Et puis sinon par mail à lagomme.compagnie@gmail.com.
Et la gomme, je précise, ça s'écrit tout simplement L-A-G-O-M.
Ah oui, bien
Exactement.
Vu. C'est pas comme une gomme. Tout attaché, la gomme.
Je vous remercie Léo Letellier, Isaiah Van Edveld, Célian Davy et Gabriel Salin. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci,
merci beaucoup.
On se quitte sur le trailer de votre pièce Tribulatus. Et ensuite, on fera une petite pause pendant laquelle vous pourrez gagner des places pour les cinéastes en appelant au 02 43 24 37 37. Tout de suite, on écoute le teaser de Tribulatus.
Je ne vais pas rester en fait. J'avais pas prévu. Je suis venu un peu. Enfin, non, ce n'est pas exactement ça. C'est moi, je ne sais plus qui m'avait parlé de. Il m'en avait parlé et ça m'a fait venir. Bah, en fait, je passais un coup de vent. Je vais peut-être rester encore un peu, mais pas au-delà. De toute façon, je ne vois pas ce que je pourrais apporter de plus à ce qu'il y a. Je ne dis pas ça pour me... Je me demande si ma présence... Bien qu'en même temps, j'ai compris. Je vais pas partir comme ça d'un coup, hein, ce serait un peu... Mais je vais pas traîner non plus. que j'ai tellement de choses à dire, à partager. Juste avant de partir, je voudrais vous dire que...
Vlak voor ik vertrek zou ik nog willen zeggen dat ik...
Justo antes de irme quiero decir que...
Je ne sais toujours pas très bien comment je suis arrivé jusqu'ici.
Ik weet nog steeds niet zo heel goed hoe ik hier terecht ben gekomen.
Todavía no sé muy bien cómo llegué aquí.
Il faut pas vous en faire pour moi.
Maken jullie zich maar geen zorgen om mij.
Pero... No os preocupéis por mí.
Je connais la sortie.
Voilà, donc c'était le trailer de Tribulatus de la compagnie de la gomme. On va donc faire une petite pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour les cinéastes en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute Mensfiltia, Dormi réveillé. Dans l'amphi pour écouter l'interview du dessinateur Lucas Nin.
Je suis avec Lucas Nin, auteur de BD argentin dont on peut citer les titres Thé de Noix, Les Contes du Suicidé, Jorge Luis Borges, Inspecteur des Volailles et Budapest ou presque. Bonjour Lucas Nin.
Bonjour, bonjour.
Alors vous êtes présent ce samedi 27 avril à la librairie Bulle pour votre nouvelle BD La Peur Émeraude qui fonctionne en diptyque avec votre album précédent Délicatessen, Tout est bon. Alors d'abord, j'aimerais savoir comment est-ce que vous êtes venu à faire de la BD.
Oui, je crois que j'ai été influencé par ma père, Carlos Nin, qui était un grand dessinateur de bande dessinée, et un grand illustrateur, et j'ai, Croyais quand j'étais petit de faire BD au dessinateur était une chose plutôt facile parce qu'il y avait une grande facilité pour les faire et les faire d'une manière étonnante. Je me trompais, il n'était pas facile. Mais quand j'ai découvert ça, il est plus tard pour me rétracter et choisir un autre métier.
Alors, quand on lit vos albums, on remarque un trait tout à fait particulier, avec des personnages qui sont souvent déformés, aux angles incongrus, aux formes exacerbées. D'où ça vient cette façon que vous avez de dessiner les personnages ?
C'est une chose étrange, parce que c'est ma volonté de former les choses. Et il existait déjà dans ma dessin de jeunesse, quand j'ai été bien petite. Et je crois que j'ai un goût pour la distorsion de la figure, des personnages. Et parce que je suis cherchant toujours les mouvements des choses, non? C'est pas une distorsion pour les goûts de la distorsion même, mais cherchant un mouvement qui sort de la structure de la chose.
Mais pour le lecteur, vous vous rendez compte que ça peut être un peu perturbant. En fait, c'est très étonnant quand on lit vos BD, parce qu'avec tous ces personnages qui sont presque parfois réduits à l'état d'esquisse, il y a une place très forte laissée à l'intuition, en fait, pour le lecteur. C'est presque, vous suggérez plus que vous ne montrez, en fait.
Oui, c'est ça, exactement. Une chose que j'ai un peu regretté de la bande dessinée en général comme langage, c'est la répétition d'un caractère, un personnage, comme un ensemble de formes qui se répètent plus ou moins de la même manière tout le temps. J'essaie de faire un personnage reconnaissable. C'est pas ma volonté de faire
comme un brouillon, quoi.
Un brouillon, oui, non, c'est pas ma volonté. J'essaie de faire quelque chose dans laquelle l'intuition du lecteur il y a un lieu important pour parce que je trouve que ça, c'est pour moi, moi, c'est la réalité. Vous ne voyez les choses toujours de la même manière, non? C'est la perspective, votre mouvement, tout ça prend une partie importante de la manière que vous percevez les choses, les gens, les mouvements, tout ça.
En tout cas, c'est sûr qu'il y a un vrai geste artistique. Je me demandais comment, techniquement, est-ce que vous y prenez pour avoir ce rendu ? Quels matériaux vous utilisez ? Vos décors, notamment, sont très impressionnants. J'ai presque l'impression, vous allez me dire si je me trompe, que vous avez d'abord utilisé des photos par-dessus lesquels vous avez dessiné.
Oui, ça change d'accord avec les projets que j'ai dans l'esprit, parce que pas dans tout ma bande dessinée, les scénarios,
le décor,
ça, c'est si important comme il est dans les Power Mirror ou Delicatessen. D'abord, je dessine tout ça en papier. Je ne dessine pas dans les ordinateurs, mais je dessine tout ça dans différents papiers. Je ne fais pas un original pour page, comme c'est la manière classique de faire la bande dessinée. Donc, j'ai un processus très important d'édition. Plusieurs fois, je descends beaucoup de versions de les mêmes dessins. Après ça, je scanne tout ça et je le mélange dans l'ordinateur. Et dans les cases de cordes, qui sont très importantes dans la pyramide, j'ai utilisé des photographies, je les mélangeais, j'ai peinté dessus, j'ai dansé dessus les photographies, j'ai fait beaucoup d'intrusions sur les photographies pour les mélanger avec ma manière de dessiner.
Alors on va parler un peu du speech de ces deux albums, Délicatessen et La peur émeraude. Donc c'est une histoire de René Dulac, un journaliste qui va investiguer sur un complot mené par Henri Le Cochon. Ça se passe dans le Paris de la Belle Époque. Pourquoi est-ce que ça vous a fasciné cette période-là? Pourquoi est-ce que vous avez voulu créer votre histoire dans ce décor-là?
Bon, ces périodes de l'histoire, et de l'histoire et particulièrement en France, il m'intéresse presque de toujours. Je suis intéressé par ces périodes parce que c'est une période de grande richesse visuelle, de langage mélangé, parce que la photographie, le graphic design, la peinture. Et le cinématographe qui était en train d'être inventé, tout ça, il s'est mélangé en un langage commun pour tout ça. Et dans des cas particuliers de la peur mérale, de délicatesse, où les animaux ont telle importance que je crois que les périodes, il a été particulièrement prolifique. Et rechercher les animaux dans les humains et vice-versa, non? Les humains dans les animaux. Et, non seulement pour la tradition de Benjamin Ravière ou Granville, et tout ça, mais pour les recherches psychologiques et scientifiques de l'époque. Je crois qu'une figure comme Charcot, qui présentait sa femme d'une manière plutôt... zoologique, non, pour dire ça. Et c'est une figure parfaite pour la faire intervenir dans ces contes animaliers. Non. Ou la manière en que Rodin ou Degas représentaient quelques figures, ils sont toujours quelque chose d'animal.
Oui, alors effectivement, vous avez relevé le fait qu'il y a un mélange entre en humain et animal, avec effectivement cette période où la psychanalyse a essayé d'associer les profils humains à des profils animaux, et c'est quelque chose que vous utilisez dans votre BD. Notamment, moi, j'ai cru voir dans votre trait pour les visages des personnages, ça m'a rappelé beaucoup les caricaturistes de l'époque. Est-ce que ça vous inspire, Daumier, tous ces grands noms-là de la caricature?
Oui, Daumier, par exemple, vous trouverez dans Délicatesse spécialement beaucoup de citations sur Sem, André Gilles, tout ça. Et je crois que c'est une période extraordinairement riche. Et tous ces gens-là, ils ont travaillé en quelque manière avec les animaux. Et j'aime particulièrement le travail de Benjamin Ravière. Benjamin Ravière est considéré aujourd'hui comme un écrivain pour les enfants d'une époque passée, non? Un âge passé. Mais il était un écrivain, un dessinateur, et je crois que... plus compliqué qu'il semble l'être, parce que son histoire, ils ne sont pas des histoires jolies avec des animaux promenantes heureusement pour la forêt. C'est une histoire torturée, si vous la lisez avec attention. Et j'aime bien cette perspective qu'il avait sur les contes, disons, infantiles.
En tout cas, effectivement, il y a beaucoup de références à la littérature, à l'art, au monde intellectuel de cette période-là. D'ailleurs, vous mettez en scène quelques personnages qui ont vraiment existé. On a parlé de Charcot, mais il y a aussi une apparition de Proust. Alors, d'autres personnages, en revanche, sont de pures inventions, comme le journaliste René Dulac, ou encore son némésis, Henri Le Cochon. Et alors, je voudrais vous demander sur quoi vous êtes-vous basé pour créer ce personnage de porc.
Le personnage de porc et de cochon, c'est basé dans un film qui vraiment existe. Aujourd'hui, vous pouvez le trouver dans Internet. Et c'est Le Cochon Danseur, un petit film muette fait pour Pathé. Je crois que... je ne sais pas comment dire les années, excusez-moi, mais c'est les premiers dessins du siècle XXe. Et j'aimais beaucoup ce genre de grotesque. Je me posais la question de penser qu'il ne s'agit pas d'un acteur déguisé, mais un vrai cochon, non? Comment nous sommes sûrs de qu'il était un acteur déguisé et pas un cochon, quoi.
Et dans la planche où fait sa première apparition Henri Le Cochon, en fait, vous avez reproduit ce film en dessin, quoi. C'est assez incroyable à voir. Alors, pour revenir un peu sur tout ce rapport entre votre BD et la littérature, en fait, ça ne concerne pas que la littérature française de la Belle Époque, puisque votre précédente BD, Jorge Luis Borges, Inspecteur de volaille, met en scène donc un grand écrivain argentin, Borges. Donc on voit qu'il y a vraiment ce lien très fort entre votre travail et la littérature. Et pourquoi il est là, ce lien?
Parce que j'ai dit à mon éditeur, je suis un écrivain. Un écrivain qui dit ça. Mais si, la littérature a été une part très importante de mon intérêt. Et je crois que je suis... comme le dire, habilité pour faire un peu la matière des choses que j'écris au dessin. Et j'aime bien de la littérature, la littérature graphique, la littérature, comme c'est dit habituellement, française, la fixation que vous avez sur des modèles français. Et je crois qu'il y a une autoréférentialité qui est très intéressante. Je l'ai trouvée dans beaucoup d'exemples. Et j'ai utilisé un peu ça. Si tu as beaucoup d'exemples en époque dans les mêmes scénarios, je crois qu'il peut être un peu étouffant, mais j'ai utilisé ça comme un moteur comique. Non? La référentialité, la superabondance de références, ils sont en soi-même une chose comique.
Alors enfin, Lucanine, il faut notifier que vous faites aussi de l'animation. Plusieurs de vos œuvres sont disponibles sur YouTube. Est-ce que vous envisagez d'animer les personnages de l'univers de Delicatessen et de la Peur Émeraude?
Non, précisément dans l'histoire, mais si vous cherchez dans Internet, vous trouverez un petit exercice que j'ai fait pour Delicatessen, qui s'appelle Turnaround, c'est-à-dire du sang qui fait tourner les personnages dans l'espace pour les voir dans différentes positions. Et c'est un petit dessin animé que vous pouvez voir. Mais je n'ai pas prévu une suite d'un dessin animé de cette histoire.
Et une suite en BD alors? Parce que moi j'ai cru voir une fin ouverte dans La Peur Émeraude. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a un troisième tome à prévoir?
Non, si vous lisez la histoire avec attention, vous trouverez que c'est très difficile de faire un troisième volume sans être un peu comme Jésus-Christ. Lève-toi, Lazare, tout ça. Mais j'aime bien l'univers des feuilletons de l'époque et j'ai prévu de faire quelques autres choses dans ce même univers. Pas avec les mêmes personnages, mais l'univers, la façon de raconter l'histoire. J'ai prévu de faire quelques autres choses dans ces genres.
Eh bien, merci beaucoup, Lucanine, d'avoir accordé quelques minutes à l'Amphi pour nous parler de votre travail. La Peur Émeraude, qui fait suite à Délicatessène, Tout est bon, c'est en ce moment en librairie, aux éditions Les Rêveurs. Encore merci, Lucanine, d'avoir fait l'effort, en plus de parler en français. C'était super, merci beaucoup.
Merci à vous, et merci pour m'écouter, de parler de cette façon en français. Excusez-moi.
C'était très bien, merci beaucoup. On fait une pause, vous pouvez gagner des places pour Mesparo et Inej le 16 mai au Saunière en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite on écoute Jacques Dutronc, il est 5h, Paris s'éveille.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5h. Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont raviées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5h. Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5h. Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5h. Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5h. Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5h, Paris se lève. Il est 5h, je n'ai pas sommeil.
De retour dans l'amphi pour les chroniques étudiantes. Et on est avec Clémentine. Salut Clem.
Salut Charlie.
De quoi tu nous parles aujourd'hui ?
Eh ben écoute, ce soir on se retrouve pour ma dernière chronique voyage qui portera sur l'Albanie.
C'est parti, on finit ce voyage avec toi.
L'Albanie est un pays balkan bordé par les mers Adriatique et Ionienne et qui se situe à la frontière du Monténégro, du Kosovo, de la Macédoine du Nord et de la Grèce. Quand nous sommes arrivés là-bas, c'est-à-dire mi-novembre, nous avons pris une sacrée claque. Quand bien même nous avions déjà pu en prendre une au Monténégro au regard de la pollution, en Albanie tout était accentué. Les habitants brûlaient leurs déchets chez eux et les animaux errants étaient très nombreux. En franchissant la frontière, un silence s'est installé dans le camion. On observait, analysait, se rendait tout simplement compte des difficultés que rencontrait ce pays et de la réalité des choses. Car oui, nous nous y attendions, mais nous n'étions pas préparés à un tel choc. Les fumées noires brouillaient les paysages. Les routes, qui ne sont d'ailleurs pas des routes mais de la terre, étaient occupées par les chiens errants, maigres, affamés, assoiffés. C'était dur, mais je pense que c'était nécessaire de se rendre compte de cette réalité. C'était un sentiment d'impuissance que nous avons ressenti, mais aussi de la culpabilité. De la culpabilité de ne réaliser tout cela qu'à 21 ans. De la culpabilité de se plaindre parfois de notre quotidien occidental, alors qu'à côté de nombreux pays tels que l'Albanie par exemple et tant d'autres ont besoin d'aide pour mettre en place des infrastructures de recyclage et d'aider les associations d'aide aux chiens errants. Cette réalité, nous l'avons vue seulement quelques heures car nous sommes partis à Tirana, qui est la capitale du pays. C'est un gros paradoxe qui s'est alors illustré. La ville était si développée. De nombreux immeubles étaient en construction, de grands centres commerciaux agrémentaient la ville, de nombreux bars, cafés, jardins pour se balader se trouvaient au sein de la ville. Nous sommes donc passés du tout au tout. Nous étions à Tirana pour passer une semaine avec l'un de mes meilleurs amis, qui était en service civique international là-bas. Il nous a alors fait visiter la ville, montrer de jolis coins. Mais le soir avec Glouen, nous parlions à chaque fois de ce décalage qui nous a beaucoup marqué, entre le développement de la capitale et le reste du pays. Le second jour, nous avons décidé de partir visiter les anciens locaux souterrains communistes dont le site était devenu un musée. Nous avons voulu en connaître davantage à propos de l'histoire de ce pays. C'est jusqu'en 1991 que l'Albanie était sous un régime communiste. Le musée nous a énormément appris sur son histoire et surtout à propos du communisme sous Enver Hoxha. Certes, la chute de ce régime remonte à 1991, mais c'est encore récent et un sentiment de crainte se ressent toujours au sein du pays qui était sur écoute pendant de longues années. Après avoir passé la semaine à Tirana avec Mehdi, nous avons repris la route en direction des montagnes et de la mer. Nous avons alors trouvé un coin paisible au bord de la mer pour se reposer après une grosse semaine riche d'histoire. Mais voilà, le contraste a ressurgi. Les maisons étaient sans fenêtres, les plages étaient remplies de déchets, les chiens errants en meute, affamés et assoiffés, cherchaient à nous approcher pour avoir à manger, à boire, mais aussi pour avoir des câlins. Ils n'étaient pas méchants, au contraire. S'ils étaient en meute, c'était pour se défendre de possibles attaques d'humains ou d'autres meutes. Nous avons alors fait le choix de les nourrir, évidemment, mais c'était dur, car ils pleuraient, dormaient à côté du camion, et nous nous sommes sentis si impuissants face à cette détresse animale et environnementale. Nous avons échangé avec des locaux qui étaient très accueillants, souriants, et qui nous parlaient de ces difficultés. Ils nourrissaient les animaux comme ils le pouvaient, faisaient au mieux, mais nous avons senti qu'ils étaient impuissants également face à tout ça, et que ces difficultés étaient à trop grande échelle pour les régler seuls, et cela ne peut que se comprendre. Néanmoins, pour essayer d'ajouter un peu de gaieté à tout ça, je vais vous raconter une petite anecdote. La veille de prendre la route en direction de la mer, une tempête s'est abattue sur le pays. Et comme je vous l'ai dit, les routes sont en terre. Il y avait donc d'énormes flaques d'eau sur le chemin, mais je ne sais pas ce qui s'est passé dans nos têtes, mais on s'est dit qu'on pouvait aller au bout du chemin. Et c'est alors qu'on s'est retrouvé face à une gigantesque flaque d'eau. Après 10 minutes de réflexion, on s'est lancé. Eh bien, je vous le dis, on aurait dû réfléchir bien plus de 10 minutes. Le camion a commencé à s'embourber. Au début, pas de panique. On s'est dit que ça allait le faire en poussant un peu. Mais non, la flaque était bien plus profonde que ce qu'on pensait. Lorsqu'on ouvrait la porte avant de gauche, l'eau rentrait presque dans le camion. On a alors commencé à un peu paniquer, car il ne faisait que s'embourber de plus en plus et nous n'arrivions pas à le sortir de là. Goulouane est alors parti voir si des habitants étaient dans le coin, mais bien évidemment que non. Les premières habitations étaient à 5 km. Mais pris d'un coup de panique, Goulouane est retourné dans le camion, je suis retournée dehors à l'avant et j'ai poussé le plus fort possible comme pris de rage alors que j'étais simplement paniquée. Mais ça a marché. On a sorti le camion de l'eau et on a fait demi-tour en marche arrière et on a trouvé un coin plus paisible sans trop d'embûches. Nos proches nous disaient souvent de faire attention en Albanie. Et pourtant, je ne me suis jamais sentie autant en sécurité que là-bas. La nuit, je pouvais me balader seule, sans jamais être embêtée, jamais un regard déplacé d'un homme, etc. Je me suis sentie si bien là-bas que nous y sommes restés un mois. D'ailleurs, petite anecdote qui m'a marquée. Un soir, alors que l'on s'était garé sur un parking juste à côté de Girokaster, qui est une très jolie petite ville à visiter, surtout en période de Noël, un autre couple avec un enfant dormait juste à côté de nous. Et encore juste à côté, il y avait des jeunes qui faisaient des tours de voiture. Car oui, c'est un peu leur truc, les voitures là-bas. Mais enfin bref. Tout ça pour dire que le couple leur a demandé de faire moins de bruit car leur bébé n'arrivait pas à s'endormir et leur réaction a été de directement s'excuser et de s'en aller. Ça peut paraître être rien, mais ça m'a marqué. Je ne dis pas qu'en France, une situation similaire ne se serait pas déroulée de la même manière, mais je dois avouer que j'ai pu comparer et me dire qu'en France, la réaction n'aurait peut-être pas été aussi gentille. Aussi bien je me trompe, mais c'est ce que j'ai pensé sur le coup. Après avoir visité cette petite ville, nous sommes partis en direction de Berat, surnommée la ville aux mille fenêtres, qui est située au centre-sud. C'est l'endroit que je conseillerais en premier si l'on me demandait où aller en Albanie. Vous pourrez visiter le vieux Sand, qui est super joli, et si vous montez tout en haut, vous pourrez contempler les magnifiques montagnes qui sont à couper le souffle. Vous pourrez également déguster des bureks, qui sont des spécialités albanaises. Les bureks, c'est de la pâte, garnie soit de viande, de fromage ou d'épinards. Alors chacun peut y trouver son compte et c'est délicieux. Alors ne repartez surtout pas d'Albanie sans y avoir goûté. Ce voyage m'a énormément ouvert les yeux et je me suis promise d'y retourner pour m'impliquer dans une association d'aide à l'environnement ou d'aide aux animaux. Sur cette découverte de l'Albanie, de ses paysages et de ses difficultés, je vous remercie d'avoir écouté depuis octobre mes chroniques sur la thématique de l'année de césure. Je te remercie également, et surtout toi, Charlie, fabuleux animateur de l'émission L'Amphi, qui m'a permis de vivre cette aventure et de découvrir le monde de la radio. Alors un grand merci, et surtout, je vous souhaite une excellente soirée.
Fabuleux, rien que ça. Non, merci à toi Clémentine de nous avoir raconté tes voyages dans cette émission L'Amphi, qui se clôt bientôt effectivement. On te retrouve pour la dernière émission le 30 avril, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça, demain.
Formidable. Eh bien, merci Clem pour cette dernière chronique qu'on va illustrer en musique. Vous pouvez gagner des places pour Lake et Penelope Antenna le 22 mai au Saunière en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute Moriarty, Jimmy.
Please come home. The grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your Cousin Jim. Come home, Jimmy, 'cause you need a bath, and your Grandpa Jimmy is still gonna die. There's Buffalo Jim and Buffalo Jim. There's Jim Buffalo, not a didn't you know. Jim, Jimmy, Jimmy, it's your last cigarette. And there's Buffalo Piss, and it's all kinda wet. Jumbo Jimmy, you'd better hold your nose. Our roads lead to Rome with the buffalo.
Buffalo.
Merci à vous d'avoir écouté l'Amphi. On se retrouve pour la dernière fois ce mardi 30 avril pour ma dernière émission. Avec tout un tas d'invités, des amis, des chroniqueurs, des bénévoles de la radio, on va vous partager des tas de références culturelles, livres, BD, films, musique, sorties, artistes, séries, jeux vidéo, sites internet. Il y en aura pour tous. Si vous êtes curieux et que vous aimez découvrir de nouvelles choses, n'hésitez pas une seconde à écouter l'Amphi. La dernière sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com. À bientôt dans l'Amphi.
C'était l'Amphi. L'émission étudiante.